Rencontre avec
Jean-Michel Beauregard.
Rencontre avec.
Rencontre avec.
Vous avez vendu plus de 20 millions de bouquins concernant l'Égypte. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous vous permettez de demander la démission du président de la République? J'ai l'impression que vous vous foutez d'eux.
J'ai dénoncé le dopage, mais c'est pas très original.
Quel scoop!
Rencontre avec.
Tous les dimanches à 18h.
À 18h.
Et la rediff le mardi à 23h.
À 23h.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard
recevra une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif.
Je vous attends sur RVE. Soyez au rendez-vous.
Bien, eh bien, dans le cadre de Rencontre avec, je reçois aujourd'hui le vicomte Paul de la Panouse. Alors, on vous sait très attaché aux traditions, comment faut-il vous dire bonjour Vicomte, bonjour Monsieur le Vicomte, bonjour Monsieur de la Panouse?
Écoutez, pour l'émission, on va dire bonjour Paul, ça sera plus simple. Voilà.
Alors, vous êtes le fondateur de la réserve africaine de Thoiry. Comment vous est venue cette idée? Était-ce par besoin d'argent ou par passion, tout simplement?
Les deux, mon général, comme on dit. L'idée d'ouvrir les animaux, c'était d'abord... J'avais 21 ans en 1965, vous ne faites pas le calcul, ça me fait 62. Et donc, j'avais 21 ans, j'ai demandé à mes parents l'autorisation d'ouvrir le château de Thoiry au public, d'ouvrir les collections, les jardins, afin de lui redonner une fonction sociale par une activité culturelle et quelques revenus touristiques. Et je me suis aperçu très rapidement qu'on plafonnerait dans des chiffres de visiteurs, quelques dizaines de milliers de personnes, qui sont les chiffres habituels des musées, des châteaux. Et donc, pour attirer les enfants, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, si on fait un parc d'amusement, ça ferait cochonner le parc, les 127 hectares de jardins classés que je voulais sauver. Je me suis dit, les animaux sous les arbres, c'est logique, c'est en synergie. Ce qui est bien, ça serait de mettre des animaux. Voilà. Alors, je connaissais rien, moi, en animaux. Je connaissais les animaux de la campagne, de nos campagnes, mais en lion, girafe, éléphant, lion, tout ça, c'était... Alors, chercher quelqu'un qui à Paris, région parisienne, avait fréquenté ces animaux, c'était Jean Richard. Et Jean Richard m'a reçu avec énormément de gentillesse. Il m'a dit, quand moi j'ai voulu faire un cirque, moi j'étais un acteur déjà connu, j'ai voulu faire, tous les gens du cirque m'ont mis des pots de banane sous les pieds en disant que pourquoi est-ce que celui-là, il vient se mêler de ce qui ne le regarde pas. Alors il m'a dit, j'ai décidé de ne pas faire la même chose s'il y avait quelqu'un qui venait me demander ce que moi j'avais demandé aux autres. Il s'est tourné vers sa secrétaire en disant, il n'y a aucun document caché pour Monsieur de la Panouse, nous allons l'aider à réaliser son idée. Et quand j'ai ouvert un petit parc zoologique traditionnel en 66-67, Jean-Richard a téléphoné à tous ses copains, journalistes, en disant « Tiens, il y a un petit jeune qui essaye de sauver son château en mettant des animaux, j'y vais, venez avec moi », ce qui était vraiment extrêmement sympathique. Et il m'a donné aussi deux personnes pour m'aider, il m'a donné deux noms de personnes qui sont devenus des amis très fidèles, Michel Klein, le vétérinaire, qui maintenant est à la retraite, et Dominique Perrin, qui s'était occupé d'énormément de manifestations, là, l'Union des artistes, là, le Val des Petits Liblans et autres, qui est à la retraite, mais elle est à la retraite à Thoiry, ce qui fait qu'on travaille toujours ensemble.
Bien, alors, de l'eau est passée sous le pont depuis. Alors, Thoiry n'est pas que Thoiry, mais est devenu en 30 ans d'existence, Thoiry Participation ou Thoiry Participation? Qu'est-ce que vous préférez?
Thoiry Participation.
D'accord.
Français pur port.
Alors, c'est une holding qui chapeaute aujourd'hui plusieurs sites, dont le Safari Club, le Safari Park de Peaugres en Ardèche, celui du Parc du Colombier en Aveyron, le Vivarium de l'île aux Serpents de la...
Non. Plus.
Terminé.
Je m'occupe par contre de la Vallée des Singes à Romagne, dans la même
d'accord.
région.
D'accord. Donc, dont acte. Hein. J'ai mal étudié.
Vous voulez qu'on commence la question, peut-être?
Oui. Attends, alors, vous êtes également administrateur du Safari Park de Sigean dans l'Aude. Mm-hmm. Et ce n'est pas tout. Les Lapanouse, père, mère, fille, Colomba et fils Edmond, comptent ajouter de nouvelles créations, dont le futur parc aux ours de Boux-le-Mourtis dans les Pyrénées, que je connais bien la région. Hein. Je la connais bien.
Alors là, vos informations ne sont plus tout à fait du jour.
Ah bon, ça m'aurait étonné.
Ma maman nous inspire du haut du ciel. Et les ours dans les Pyrénées, pour le moment, le parc de Boux, je ne pense pas que ça sera à Boux, ça serait plutôt dans l'Ariège.
Dans l'Ariège.
Voilà, on change de département. Mais à part ça, il y a plein de projets.
D'accord.
Il y a plein de projets et il y a une collaboration familiale très grande. Et donc, mon épouse, moi-même et mes deux enfants, nous avons décidé de créer une fondation privée d'utilité publique qui va reprendre les châteaux familiaux et qui va permettre d'éviter, non pas les droits de succession, parce que sur les châteaux, quand on ouvre au public, l'administration accepte qu'on sous-évalue, compte tenu de la gêne que ça représente et autres, mais les partages successoraux qui sont une révolution trentenaire. Et donc, mes deux enfants, ma femme et moi-même, on a décidé de mettre Thoiré dans une fondation privée d'utilité publique, dont les statuts ont été acceptés par le ministère de l'Intérieur, et qui, les statuts vont être bientôt déposés auprès du Conseil d'État. Donc, le but, c'est de pérenniser un ensemble dont on n'a pas l'impression d'être propriétaire, vraiment. Parce qu'à Thoiré, mes enfants sont la 16e génération, et au château du fort du Colombier dans l'Aveyron, près de Rodez, mes enfants sont la 29e ou la 30e génération familiale sur cette terre. Donc, est-ce que vous voulez, on a vraiment l'impression ici qu'on est de passage. Et puis, tous les arbres que je plante aujourd'hui, on en a planté 3500 après la tempête, tous les arbres qu'on plante aujourd'hui, je les verrai jamais adultes. Je peux les rêver adultes, mais je ne les verrai jamais adultes. Quand nous avons fait le labyrinthe, qui est un très gros succès...
On va en parler.
Mon épouse a planté le labyrinthe 15 ans avant la date d'ouverture. Peu en attendu que ça pousse pendant 15 ans. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à Thoiry comme ça, qui sont pour le très très long terme. Et puis, moi je connais plus de morts que de vivants. Le fonds d'archives qui est colossal...
On va en parler aussi.
Je connais mieux... des tas de gens disparus que je ne connais mes propres amis, parce que je sais exactement ce qu'ils dépensaient. J'ai leurs petites lettres amoureuses, leurs billets doux, j'ai leur carnet spirituel quand ils étaient des gens religieux, leurs vers satiriques quand ils étaient agnostiques. Je connais d'eux mieux que je connais mes propres amis. Donc ici, tout nous montre que nous sommes mortels, et en plus les animaux tournent plus vite que nous en général, c'est-à-dire qu'ils vivent moins, à part les éléphants, et encore, même les éléphants vivent moins vieux que les hommes, l'homme vit vieux. Donc ici je suis à la je sais pas combienième génération de lion, c'est la 15e ou 16e génération de lion, à 18 mois une lionne peut avoir des petits, donc ça tourne très vite chez les lions. Voilà, Thoiry, c'est très vivant, c'est un théâtre de la nature, un théâtre de l'histoire. Je n'ai pas l'impression d'en être propriétaire, mais simplement dépositaire pour une tranche de vie.
Alors, vous dites une chose qui est très jolie, vous dites « je suis un metteur en scène ». Expliquez-nous un petit peu ça.
Le métier que je fais, je fais plein de métiers.
Ouais.
Je suis agriculteur, je suis bistrotier, comme tout bon Aveyronnais émigré, J'ai 3 licences, 4 licences de vente des boissons alcoolisées, ce qui est le cas de beaucoup d'Aveyronnais qui tiennent des bistrots à Paris.
Vous n'êtes pas charbonnier.
Je ne suis pas charbonnier. Mais voilà, parce que Thoiry, on sert 65 000 repas par an. Et je suis gérant du restaurant. Enfin, maintenant, c'est mon fils qui va l'être. Et donc, on a plein de métiers. Mais la définition fondamentale de mon métier, c'est éleveur de la faune sauvage et metteur en scène de parc. Et en fait, Thoiry, c'est une succession de jardins dans le temps. Les ancêtres, l'ancêtre qui a créé Thoiry, c'est Raoul Moreau, qui était trésorier du roi. Et on donnait cette charge à quelqu'un qui avait déjà beaucoup d'argent, avec l'espoir, parfois d'ailleurs complètement illusoire, que s'il était très riche, il ne piquerait pas dans la caisse. Ce n'est pas une garantie obligatoire. Enfin, il semble que Moreau ait été honnête. Il était trésorier du roi, il avait beaucoup d'argent, il avait le château de Maule, il a construit le château de Grosbois, et il a demandé à Philibert de Lorme de construire un château à Thoiry qui le permette de faire ses études ésotériques. Donc il a cherché un site qui convenait. Il a trouvé une colline qui est entourée entre 11 et 15 kilomètres par des lignes de crête à la même altitude, ce qui fait qu'au solstice d'été, pendant 20 jours, le soleil se lève juste dans l'axe nord-est du château. Et quand on va sur le parterre sud-ouest, on voit le soleil se lever à travers le château. On a l'impression que le soleil a passé la nuit dans le château. Et il apparaît dans le vestibule central. Et l'inverse, au solstice d'hiver, le soleil se couche à travers le château, se reflète dans le bassin avant de disparaître à l'horizon. Et Apollon, le dieu soleil, le reflet du soleil, Apollon, rejoint le reflet de la statue de Diane Chasseresse qui est au bout du jardin sud-ouest, parce que pour sa plus longue nuit de l'année, Apollon, le dieu soleil, les passe dans les bras de sa sœur Artémis, déesse de la lune. Et donc, Thoiry, et puis alors, il y a une transparence latérale qui correspond au lever du soleil, coucher du soleil, à l'équinoxe. L'équinoxe, c'est-à-dire printemps et automne, le 21 mars et le 21 septembre. Donc, à Thoiry, les habitants, les visiteurs qui viennent assister, parce que cette espèce de cérémonie qu'on fait, c'est un événement qu'on fait, c'est plein 3 mois à l'avance, de voir le lever du soleil à travers le château. Les gens qui viennent voir ça ou le coucher du soleil, c'est un moment très émotionnant parce que on est vraiment situé dans un endroit qui vous situe dans l'espace, complètement dans l'espace. Donc les habitants du château, j'ai la chance d'habiter une maison qui est toujours à l'heure. Autrefois, chacun voyait midi à sa porte. Attention, c'est l'heure du soleil, c'est pas l'heure de la montre qui est décalée d'un certain temps. Et si le château avait été, la colline où se trouve le château avait été plus haut que l'horizon, le soleil se levait trop à gauche, à gauche et avant l'heure. Et le soleil se serait couché trop à droite et après l'heure. À Versailles, si le château, comme le palais de Versailles, était plus bas que la ligne d'horizon, le soleil se levait trop tard, donc après son heure de lever astronomique, et se couchait également, et se couchait trop tôt. Donc il a fallu trouver un site où le monument historique est donc le pivot d'un instrument solaire dont l'horizon est le cadran. Et les perspectives à travers les fenêtres sont les aiguilles. C'est quelque chose d'assez fantastique. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le château lui-même a été construit avec des proportions très harmonieuses. C'est comme un instrument de musique, ça vibre juste. Alors les mesures extérieures sont sur le nombre 5, 150 pieds de long, 150 pieds de haut pour la partie noble du château. Les mesures à l'intérieur, c'est le nombre 6, 144 pieds, 12 fois 12. Et le nombre caché, c'est le nombre d'or. Et la quinte musicale, c'est qui font de la musique harmonique. Et le vestibule central du château a le même volume que la chambre funéraire de la pyramide royale de la pyramide de Khéops, parce que c'est le plus beau volume qui permet les plus extraordinaires croissances et décroissances. Il faut savoir que les plantes poussent selon le nombre d'or, donc ça relie le château à toute la partie botanique des jardins. C'est pour ça que quand j'ai fait le labyrinthe, j'ai repris toutes les mesures du nombre d'or et toute la symbolique végétale, parce que c'est une harmonie qui nous vient de la nature. Le nombre d'or pour les mathématiciens est le seul au monde dont la progression géométrique et arithmétique sont la même. Mais un gosse avec une corde, une ficelle avec 12 nœuds peut construire n'importe quelle ogive de cathédrale. Et je connais une prof, une institutrice qui a appris à ses enfants de 9-10 ans à manipuler le nombre d'or d'une manière absolument extraordinaire. Ce qui fait que ces gosses, quand ils arrivent en classe de 3e, je crois que c'est 3e, on apprend la trigonométrie et la géométrie, ben pour eux, ils voient. Elle leur apprend pas les formules, mais elle leur apprend à manipuler les nombres tels que la nature les a créés. Parce que quand on joue...
Et en ce cas, à les maîtriser.
À les maîtriser. C'est comme la quinte musicale. Pourquoi s'il y a des sons justes et pas... Il y a 12 sons justes. Quand on joue sur un piano, il y a les notes blanches, les notes noires. Ça fait 12 tons et demi-tons. Ça, c'est juste. Avant, c'est du bruit, après, c'est du bruit. Pourquoi personne ne sait? Mais c'est comme ça. La nature a choisi certaines fréquences, certaines proportions pour s'exprimer. Et il se trouve qu'il y a un nombre qui n'a rien de magique, mais qui est un nombre très extraordinaire parce qu'il permet des correspondances et qui a été utilisé depuis les Égyptiens, les Macédoniens, les Grecs et même par des architectes modernes comme Gaudi ou Le Corbusier. Donc Thoiry est vraiment un monument très exceptionnel. En plus, les jardins,
Oui, vous m'avez un petit peu
oublié les jardins.
Oui, parce que justement, cette fameuse construction sur le sommet d'une colline fait que il y a quelque chose d'unique au monde ici, au niveau du parc botanique.
Oui,
alors,
des jardins.
Expliquez-nous ça un petit peu.
Alors, les jardins ont été faits au XVIe siècle en fonction des axes du lever du soleil, l'instrument solaire du château. Et puis Dego, le neveu et successeur de Lenôtre, qui a travaillé dans les jardins de Thoiry au début du XVIIIe siècle, a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Quand on descend l'allée centrale du jardin sud-ouest, du parterre sud-ouest, on a l'illusion que l'horizon, au lieu de se rapprocher, s'éloigne. C'est-à-dire que vous et moi, promeneurs, j'ai le pouvoir de faire reculer l'horizon. C'est vraiment la quintessence d'un jardin à la française. Comme dirait le vers de Corneille, je suis maître de moi comme de l'univers, au point de les tordre les règles de la nature. Alors pourquoi ça marche? Ça marche parce que les allées de tilleul de cette perspective de 630 mètres de long, qui est une perspective fermée dans la forêt, donnent l'impression d'être plantées à 120 mètres au bout du parterre et qu'il y a 510 mètres de tapis vert qui sont invisibles du rez-de-chaussée du château. Et quand on descend, le tapis vert se met à monter au-dessus du bassin. Or, quand on est dans une falaise et qu'on regarde la mer c'est le toit bleu dont on parle Valérie, et puis quand on descend sur la plage, le grand mur bleu devenait plus qu'une petite ligne bleue. Tandis qu'à Thoiry, le tapis vert monte et fait reculer l'horizon. Donc c'est un phénomène. Alors ensuite, au 19e, ils ont fait des jardins plus naturels que la nature. C'est le jardin anglais. Anglo-chinois exactement, parce que son inspiration est venue de Chine. Donc on a fait des jardins qui paraissent plus naturels que la nature. On s'est aussi travaillé qu'un jardin à la française, mais l'effet est complètement différent. Et puis, moi j'ai fait le parc animalier comme ça. J'ai approché ça comme fermier, comme jardinier. C'est pour ça que j'ai pu inventer des règles que personne n'avait imaginées, parce que j'ai eu une approche que personne n'avait faite avant moi. Je me suis dit que chaque animal... un jardin idéal dans sa tête, c'est le territoire où il peut exprimer ses comportements. Bah, si c'est un singe qui vit dans les arbres, on peut lui donner 1000 hectares, il va s'emmerder à mourir. Et par contre, on lui donne une petite maison, mais dedans, il y a plein d'étagères, il est tout content parce qu'il va choisir sa branche pour dormir. Bon.
Suivant qu'il est dominant ou dominé.
Suivant qu'il est dominant ou dominé. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut calculer. C'est pas la peine de donner une grande surface à un serpent. Un vipère aspique dans nos jardins, enfin c'est plutôt dans le midi, mais une vipère qui vit en France va passer toute sa vie dans moins d'un mètre carré. Pourquoi? Parce que d'abord elle hiberne déjà, ça fait un bon bout. Puis s'il y a suffisamment de mulots qui passent à côté, elle bougera pas. Le seul moment où elle va bouger, c'est pour les amours, la période des amours. C'est le seul moment où elle va bouger. Sinon, elle bouge pas. Donc, il faut regarder les animaux avec leur regard et pas le nôtre. Et j'ai imaginé un grand jardin où les animaux pouvaient exprimer leur comportement, ce qui est un rêve écologique de la fin du XXe siècle. Et les visiteurs peuvent voir la vie sociale des animaux, parce qu'ils vivent en troupeau à Thoiry, comme dans la nature, au lieu de vivre par couple, comme dans des petites cages, comme dans un dictionnaire. C'était la vision du XIXe siècle. Donc voilà, c'est un jardin du XXe siècle, et le jardin du XXIe siècle, c'est mes enfants qui le feront, c'est pas moi.
D'accord. Bien, toujours dans les perspectives de ce que vous avez, ce que vous avez envie de concevoir, il y a quelque chose d'assez, qui m'interpelle énormément. Qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir créer un vivarium immergé au milieu d'un grand fleuve?
Ça, c'est une idée pour un projet, c'est dans le Rhône, avec le maire... Maurice Charnier, le maire de Vaux-en-Velin, endroit connu parce qu'il y a eu beaucoup d'émeutes de banlieue, malheureusement, les dernières émeutes de banlieue ont été graves et ont révélé un très grave malaise, mais il n'y en a pas eu à Vaux-en-Velin. Parce qu'à Vaux-en-Velin, Maurice Charnier a su créer un réseau associatif remarquable. Qui fait qu'il dit en riant, mon taux de criminalité est tombé d'une manière remarquable, mais quand on regarde ceux qui cassent à côté, il y en a quand même pas mal qui viennent de chez moi. Mais et c'est vrai d'ailleurs du Val-Fouré, hein. Si vous habitez le Val-Fouré, on vous casse pas votre voiture. Puis le Val-Fouré a beaucoup évolué aussi.
Pour différentes raisons.
Et donc, l'idée de faire ça à Vaux-en-Velin est vraiment une idée de dire toutes les migrations ont lieu par les fleuves. On a commencé par toutes les migrations anciennes, c'est-à-dire les Celtes, les Romains, toutes les peuplades, les Visigoths, les Gaules, les Vandales, tout ça, c'est venu par les fleuves, toujours. Le Danube, le Rhin, le Rhône. Et puis, la colonisation s'est faite par les fleuves. C'est-à-dire, les Européens sont partis de fleuves européens pour aller coloniser le monde. Alors, la colonisation, il faut pas en parler comme quelque chose, les gens en parlent très mal. La colonisation est un fait qui serait arrivé de toutes les manières. Et normalement, c'est pas nous, les Européens, qui aurions dû coloniser le monde, c'était les Chinois. Car en 1380, un amiral chinois musulman a dirigé 6 expéditions qui ont fait le tour de l'Afrique, qui sont allées jusqu'en Amérique, avec des bateaux qui faisaient 100 mètres de long. Le bateau amiral transportait 500 personnes. Et il est revenu, il a dit à l'empereur, maintenant, Majesté, nous pouvons conquérir le monde. Et puis, l'entretemps, l'empereur, qui avait commandité ces expéditions, était mort, et son successeur a dit, comment ? Mais quel intérêt ça ? En dehors de la Chine, il n'y a que des barbares. Vous arrêtez tout ça, comme je veux être sûr que vous ne fassiez pas dans mon dos, vous allez couler les bateaux. On a retrouvé un gouvernail dans une baie près de Hong Kong qui faisait 11 mètres de hauteur, le gouvernail, pour vous dire l'ampe de ces bateaux. 80 ans plus tard, avec des coques de noix qui faisaient 30 mètres de long, c'est les Portugais et les Espagnols qui ont fait la conquête du monde, en remontant les fleuves. Donc normalement, si nous aurions été en guerre européenne, nous aurions été avec les Africains, avec d'autres Asiatiques, avec les Américains, on aurait eu des guerres d'indépendance contre la Chine. C'était le sens. Mais à partir du moment où le progrès de l'agriculture a permis la création des villes et où ces villes sont devenues très importantes, où la population a pu augmenter, la planète n'ayant pas augmenté en taille, la colonisation était inévitable. À Vaux-en-Velin, il y a 40, pour les Français habitants, les citoyens français de Vaux-en-Velin, ils ont 40 origines ethniques différentes. D'où l'intérêt de faire un parc qui valorise ce qui est leur histoire, mais ce qui est aussi la nôtre. Parce qu'on ne sait plus très bien si on est celte, romain, vandale, visigoth, franc, on ne sait plus très bien ce qu'on est. Tout ça, ça s'est mélangé. Donc c'est très important de retrouver nos racines historiques. Les fleuves ont joué un rôle, donc l'idée de faire un parc sur la vie du fleuve, alors l'écologie du fleuve, de la montagne à la mer, l'écologie des fleuves qu'on remonte dans chaque continent, l'histoire des populations, des migrations, du début de l'histoire à demain, c'est ça le but de ce parc. Et alors, je veux dire, au lieu, il n'y aura pas de, par exemple, de girafes et d'éléphants, ils ne vivent pas à côté d'un fleuve.
Bien sûr.
Mais il y aura la faune, la flore des fleuves, du fleuve du Rhône, de fleuves asiatiques, de fleuves, et surtout, il y aura toute l'histoire de l'eau. Comment on prend l'eau dans le fleuve, on la distribue par des milliards de kilomètres de tuyaux pour la récupérer, la nettoyer ensuite, plus ou moins bien, mais en vrai, vaut mieux que ce soit bien, pour la renvoyer dans le fleuve, d'autant plus que les prochaines guerres mondiales internationales, c'est l'eau qui va les commander. Dans 30 ans, c'est plus le pétrole, ça va être l'eau. Ça commence déjà. Quand la Turquie fait un barrage et coupe toutes les rivières, les fleuves qui sont en aval, ça pose. Actuellement, même Canada, États-Unis, les États-Unis ont un lac fermé qui a augmenté de niveau. Ils voudraient vider avec des pompes l'eau dans une rivière. Les Canadiens disent donc votre lac est pollué. On ne veut pas recevoir vos eaux. C'est vraiment le problème de l'eau va devenir majeur. La faune, la flore qui dépendent de l'eau, c'est très important d'y sensibiliser les gens. Donc je suis plus pour faire des parcs autour d'un thème et de développer ce thème pleinement, comme pour vous parliez des ours. Eh bien, parler des ours dans toutes les civilisations, de l'ours qui est en nous, l'ours, la symbolique de l'ours, les ours dans l'art, enfin, et de prendre un thème et de s'y tenir plutôt que de faire un nouveau Thoiry, un nouveau Sigean, un nouveau Pauvre. J'en ai fait 3. Bon, ben, j'ai pas trop envie d'en faire un 4e ou un 5e. Ça, je trouve pas ça amusant.
D'accord.
Il faut toujours essayer de se renouveler. Se copier soi-même est aussi dangereux que de copier les autres.
Bon, on l'aura tous compris. Vous avez une âme d'historien. C'est votre formation première, je pense. Et puis, vous êtes passionné par ça.
Ben, une âme d'historien parce que je suis né handicapé. Je marchais mal. Et quand on marche mal, ce que j'ai dit à mon fils qui marche mal aussi, quand on marche mal, il faut savoir regarder où on met les pieds et on va aussi loin que les autres. Pas plus loin. Aussi loin que les autres. Parce que c'est pas par rapport aux autres qu'il faut agir. C'est par rapport à soi-même. Et la deuxième chose, je suis né dans un endroit fabuleux, mais qui était très handicapé. Il était inadapté à l'histoire. Donc je savais que la manière dont mes parents, mes grands-parents avaient vécu au château de Thoiry, c'était fini. C'était fini et il fallait trouver le moyen de donner à ce... redonner.
On changeait d'époque, c'est ça que vous voulez dire ?
On change tout le temps d'époque. Et il faut suivre. Donc, suivre, c'est précéder, a écrit Chateaubriand. Donc, il faut essayer de précéder un peu pour bien suivre. C'est-à-dire, la vie demande, à chaque instant, on est fait pour incarner plus d'êtres. C'est ce que je crois fondamentalement. C'est la philosophie de Thoiry que je fais passer. Incarner plus d'êtres, c'est acquérir plus de capacité de comprendre, de comprendre, de faire, d'agir, et également de personnaliser les relations affectives. Pour moi, le brin d'herbe a déjà de l'affectivité. C'est infinitésimal, mais il préfère la lumière à l'ombre. C'est infinitésimal, mais dès qu'il y a de la vie, il y a de l'affectivité. L'évolution est un fait. Je suis évolutionniste, c'est dans le comment. Puis il y a les questions qui sont le pourquoi. Alors là, c'est plus de la science, c'est de la métaphysique, de la philosophie ou de la religion, mais ce n'est plus le même ordre. Donc il faut avoir les idées claires, il faut aider les gens à avoir les idées claires, et leur dire attention, après, si vous dites que c'est le hasard qui a tout créé, si vous dites que c'est Dieu qui a tout créé, vous ne pouvez pas le prouver, ce n'est pas scientifique. Mmh. Alors je fais œuvre de littéraire, c'est-à-dire que je dois aider les gens à se poser les questions en histoire, dans la nature, en s'amusant, on vient s'amuser d'abord à toi, rien. Et puis de se poser des questions, de lever le regard vers le ciel. On marche toujours en regardant ses pieds. Dans Les Arbres qui parlent, qui est une des animations de Thoiry, les arbres disent attention, levez la tête, regardez-nous, regardez comment on accroche le ciel. Vous verrez, 95% de votre temps, vous marchez en regardant les pieds ou à l'horizontale, pas en regardant les ciels, pas en regardant le noir. Et simplement cet effet de regarder le ciel, regarder d'un seul coup, et tout un monde. La nuit, c'est les étoiles.
C'est une autre dimension, c'est ça.
C'est une autre dimension.
Ouais, d'accord.
Voilà, c'est les petites choses de Thoiry, c'est ce côté théâtre de la nature. Et pour aller plus loin, pour aller un petit peu plus loin, il y a des endroits. Pourquoi est-ce qu'un Français va aller en voyage de noces, aller voir le Taj Mahal, des monuments, la cité interdite, des choses comme ça. Puis alors le Japonais, il va venir à Versailles, il va se marier au château de Breteuil. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'il y a des endroits. Un jardin historique, c'est un espace qui est sculpté par les siècles. Il y a des endroits où il est plus facile de transformer les instants de bonheur d'une promenade familiale ou amoureuse en moments d'éternité. J'ai eu d'ailleurs, au tout début de toi, une histoire très amusante. J'ai un oncle qui s'était sauvé, le marquis de Bagneux, s'était sauvé de chez lui à 14 ans parce qu'il ne voulait pas faire d'études. Son père l'avait fait reprendre par les gendarmes, mais bon, à chaque fois, il se sauvait. Puis son père en a eu marre, en disant, mais je veux être mécanicien. Bon, alors son père dit, oh, tu seras mécanicien. Puis il était mécanicien, il rentrait dans un garage comme mécanicien, puis il a acheté un camion, deux camions, il a construit une entreprise de camions. Puis un jour, il lui a permis de sauver son château, son entreprise de camions. Un jour, il me téléphone, il dit, tiens, je sors d'un bar à la Villette, puisque de temps en temps, il aimait bien conduire lui-même un camion, aller voir ses chauffeurs et manger avec eux. Il dit, il y a un chauffeur, il a raconté une histoire, ça t'amusera. Il m'a dit, écoute, tu veux sortir une nana, tu te pointes à Thoiry, d'abord tu l'as pour toute la journée pour toi, puis alors quand elle est au milieu des, vous êtes au milieu des lions, elle a la trouille, elle se jette dans les bras, ça te facilite le boulot. Et 8 jours après, comme quoi quelquefois il y a des coïncidences, je reçois un téléphone de quelqu'un de très précieux, très snob, qui me téléphone, la Panouse, vous savez que je suis mon service militaire actuellement à la marine, où je suis dans le ministère, et j'ai entendu un jeune aspirant qui disait, si vous voulez courtiser une demoiselle, eh bien, il faut que vous alliez à Thoiry, parce que quand vous êtes au cinéma, vous comprenez, à moins que ce soit déjà très avancé, vous ne pouvez pas, parce que là, ça vous aide à soutenir la conversation, et puis quand on arrive chez les lions, et que la demoiselle est effrayée, eh bien, vous lui passez le bras autour de l'épaule, et ça facilite beaucoup les relations. Alors, quand je dis qu'il y a des endroits où il est plus facile de transformer les instants de bonheur d'une promenade amoureuse en moment d'éternité, bah, Thoiry il est. Et dernière histoire plus récente là-dessus, anecdote, quand il y a eu la tempête, j'ai eu un coup de téléphone.
Ah oui, c'est très joli ça. Ça, c'est très joli.
J'ai eu un coup de téléphone d'un visiteur qui me dit, monsieur de la Panouse, excusez-moi de vous déranger alors que vous devez avoir 2500 arbres par terre. Effectivement, j'avais du boulot. Mais est-ce que le chêne qui est à l'angle des azalées et des rhododendrons est toujours debout, le grand chêne ? Alors, j'ai dit, celui de gauche ou celui de droite quand on vient du château ? Celui de droite. Celui-là est toujours debout, celui de gauche, il est par terre. Oh, que je suis content, monsieur de la Panouse. C'est là que ma femme et moi, on s'est déclaré notre amour. Ben, je ne peux pas passer devant cet arbre sans penser à ce couple.
Ouais, c'est très joli comme histoire, ça.
Et puis, ça donne un sens à ma vie. Les visiteurs font deux choses, et nous leur en sommes très reconnaissants. Ils nous donnent les sous pour entretenir quelque chose qui coûte très cher. Les animaux, les arbres, le château, c'est très cher. Alors, ils nous donnent les sous, ce qui est très gentil, mais ils nous donnent surtout un sens à notre métier, à notre vie. Parce que tous les gens qui travaillent ici sont drôlement motivés. D'ailleurs, on parlait des débuts de Thoiry. Bah, le premier chef animalier, c'était le garde-chasse. Le premier directeur du restaurant, c'était le cuisinier du château. Il n'y a pas que moi qui ai évolué, tout le monde a évolué. Mmh. Le village aussi a suivi, tout le monde a suivi.
Bien.
On va adopter une petite pause musicale, là, pour le moment. Alors, vous avez choisi une chanson qui est d'Henri Salvador, qui est bien adaptée au milieu ambiant. Ça s'appelle « Le lion est mort ce soir ». Alors, vous faites une petite proposition à nos auditeurs. Oui. Alors, vous faites une petite proposition à nos auditeurs. Alors, je vous laisse la faire.
Bien, voilà. Eh bien, écoutez, vous qui m'entendez, ça me fera plaisir de vous offrir... contre un mot de passe, un billet gratuit pour un enfant par famille et voiture. Entre le samedi 11 et le samedi 18, c'est-à-dire pendant les 8 jours là, de vacances de février qui restent à courir, il faudra donner un mot de passe. Ben, le mot de passe, c'est le titre de la chanson « Le lion est mort ce soir ». Donc, vous êtes arrivé à la caisse, vous prenez un air très mystérieux, vous dites à la charmante caissière que vous rencontrerez « Le lion est mort ce soir » et elle vous donnera une entrée gratuite pour un enfant. Surtout, répétez ce secret à tout le monde.
Merci, à tout de suite.
À partir de 18h, rencontre avec tous les dimanches et la rediff le mardi à 23h.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard recevra une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif. Rencontre avec.
C'est Jean-Michel, ce soir, rencontre avec.
Bien, ben, vous êtes à l'écoute de RVE et vous avez bien raison. Alors, nous sommes toujours en compagnie du vicomte Paul de la Panouse. Alors, on a eu une première partie qui était bougrement intéressante. Alors, comme on va le voir par la suite, Thoiry, c'est aussi l'histoire, puisque vous avez découvert, monsieur de la Panouse, dans vos greniers, des dizaines de malles contenant une foultitude d'archives que vous ne gardez pas égoïstement pour vous, mais que vous mettez à la disposition des écoles, lycées, collèges, etc., avec des thèmes d'études aussi divers que le langage des sceaux, les moulins à eau, la machine de Marly, les cahiers de doléances, les registres d'état civil, les recensements, etc. Vous pouvez nous en dire plus ?
Alors là, c'est utiliser ce fonds d'archives qui est très vivant, mais qui est rendu plus vivant par Jérôme, qui est chargé de la visite du château, par des accueils plus personnalisés, donc des visites à thème, pour les écoles, pour les particuliers, des visites aux chandelles aussi. La lune pour la Saint-Valentin, je crois.
Oui, j'ai vu ça. Oui. J'ai vu ça dans la presse.
Mais on offre un verre de champagne. C'est de recevoir dans le château, c'est d'ouvrir plus le château qu'il n'était et d'ouvrir à certaines dates au-delà de manifestations plus traditionnelles. Bon, le château est ouvert à partir de février. Ça y est, il est ouvert jusqu'à le 11 novembre. Il sera ouvert quasi tous les jours. Donc, le château est ouvert au public. On le visite et autres. Mais faire des manifestations plus particulières où ma femme et moi, nous aimons bien nous-mêmes participer, c'est un moyen de contact avec les visiteurs. Et ça permet de développer des thèmes, d'aider à voir comment vivaient nos grands-pères, nos ancêtres. Nous descendons tous des rois et de ceux qui les servaient. Ça, c'est une chose dont l'histoire appartient à tous. J'ai un ancêtre, Gilles Roëlan, qui était journalier agricole, qui a fait une fortune absolument colossale, et sa fille a épousé le duc de Brissac. Mmh. Je descends de Lully. Lully était ouvrier dans un moulin, et puis il est devenu marmiton, puis il est devenu le grand musicien qu'on connaît, a été anobli. Bon. Puis à l'inverse, des familles disparaissent, parce qu'elles perdent le pouvoir, elles disparaissent. Bon. Je veux dire que la vie est quelque chose de fascinant, et l'histoire ne donne pas la solution au bon problème. Nos ancêtres, ils sont comme nous. Ils ont les mêmes... La question sans solution la plus insoluble, je dirais, c'est qu'on peut aimer quelqu'un à la folie. Si cette personne ne vous aime pas, on ne peut pas la contraindre à vous aimer sans se détruire ou sans la détruire. Et nos ancêtres étaient aussi démunis que nous. Et une société qui veut imposer son paradis terrestre, hein, son idéologie, eh bien, elle va créer un enfer si elle l'oblige. Si elle oblige les gens à vivre son paradis terrestre, elle va créer l'enfer sur terre. Et ça, c'est ça que nous apprend l'histoire. C'est cette distance de voir, de découvrir que ben, nos grands-parents, ils étaient comme nous sur les questions fondamentales, mais qu'ils avaient trouvé, avec les moyens du bord, de leur temps, ils trouvaient des solutions. C'est pour ça que chaque jardin témoigne, chaque style de fauteuil. On ne s'assoit pas de la même manière dans un fauteuil Louis XV que dans un fauteuil Louis XVI. Et il ne vous donne pas la même attitude, parce que l'art de vivre sous Louis XV n'était pas celui de Louis XVI. Chaque société doit recréer son langage. Chaque génération de chaque société doit recréer son langage. Et quand l'homme ne le fait pas, c'est que c'est une civilisation qui va mourir très vite, parce que d'autres le font. Alors, c'est ça qui est passionnant à faire, c'est de découvrir nos racines. On en a de plus en plus besoin parce que le monde, la planète a rétréci, on bouge professionnellement, on se marie maintenant avec des personnes qui sont d'un autre monde, mais on s'aperçoit que ça a toujours été comme ça.
Et les distances diminuent.
Les distances diminuent. Il y a des le programme Erasmus pour les étudiants est fantastique. On fait ses études dans 3 pays. On peut tenter de faire fortune si on veut partir 500 d'un sou à New York, en Chine, et tenter sa chance parce qu'on se dit tiens c'est trop figé en France, je vais aller ailleurs. Ou à l'inverse, vous avez des gens qui viennent chez vous avec la même idée. Donc c'est ça qui est passionnant. Et nous avons besoin d'avoir des racines, et un château va devenir un endroit de rencontre le plus important pour ça. C'est ce que nous essayons de faire par ces petites manifestations où il y a souvent aussi la musique. Il y a quelqu'un qui joue de la clavecin ou de la viole ou autre. Parce que la musique est un moyen de faire parler les émotions. Mmh. Donc ça facilite l'écoute. Donc on aime bien mélanger un peu de musique avec des rencontres dans le temps, des voyages dans le temps. Voilà.
Est-ce qu'on pourrait dire de vous que vous êtes un profond humaniste ?
Ah ben c'est un grand compliment, mais c'est surtout un grand plaisir de mon côté d'essayer de l'être. Je dis d'essayer de l'être parce que chaque fois qu'on résout une question, il y en a 10 qui se posent et que c'est la recherche est plus importante qu'on trouve. La recherche est plus importante ce qu'on trouve dans la vie. Et ça, on n'est pas, dès qu'on veut posséder quelque chose, l'avoir est à l'inverse de l'être, dit Gabriel Marcel, on le fige. Alors je disais, la vie nous demande d'incarner plus d'être. Et la vie nous demande d'avoir des objectifs dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie culturelle. Mais dès qu'on a atteint un objectif, qu'est-ce qui reste ? Qu'on a été en le faisant et les liens qu'on a créés en le faisant. S'il y a une éternité, c'est là qu'elle est, pas ailleurs. Qu'on soit croyant ou non croyant. Hein, c'est la vérité du fonctionnement de l'être. Et ça, on n'en parle pas assez à l'école. Parce que ça fait, il y a des mots qui font peur, mais alors que c'est un fait en soi. Je veux dire qu'on est aussi bien, on peut être convaincu de cela en étant agnostique qu'en étant croyant. Mais chacun essaye toujours de réduire le monde à la vision qu'il en a. Heureusement, le monde échappe toujours, la vie échappe toujours.
Qu'est-ce qui vous a empêché de faire de la politique ?
Le fait que je témoigne beaucoup mieux là où je suis, d'une manière culturelle. Alors, faut pas mélanger les champs. Ça, c'est malheureusement, c'est pas parce qu'on a une certaine notoriété quelque part qu'il faut la mettre partout. Parce que si on est bon quelque part, on peut devenir mauvais ailleurs, déjà. Et ensuite, est-ce utile ? Faire de la politique, beaucoup de mes ancêtres en ont fait, puisque toutes les lettres de ministres qui sont ici, je descends des rois de France, je descends de révolutionnaires. J'ai un ancêtre révolutionnaire qui a envoyé faire couper la tête de tous les autres. C'était un politique très dynamique et qui a fait une très belle carrière sous la Révolution. Et il s'appelait Jean-Baptiste Perrin, était fils de Buchon. Dans mon cas, je fais œuvre littéraire, je témoigne de la vie, je témoigne de l'histoire. L'histoire et la nature appartiennent à tout le monde. Donc, si je prenais la notoriété, je déviais, je dirais pas dévoyais la notoriété acquise par les Tuaries, la moitié des gens diront « s'il dit ça, c'est parce qu'il est tel parti ». Et ça serait perdre la moitié de mes auditeurs. Et j'ai pas le droit de le faire, puisque on a reçu, dans les parcs que j'ai créés, il y a eu 34 millions de visiteurs. Ça fait beaucoup de monde dans lequel on a pu communiquer. Alors je pense que pour que ça soit clair dans l'esprit des gens, pourquoi moi je ferais de la politique ? Je communique mieux là où je suis et je communiquerai moins bien, quoi que je fasse dans la politique. Alors, surtout que ça se bouscule au portillon. Mais je ne méprise pas la politique, pas du tout. Je regrette qu'il n'y ait pas de grands politiques actuellement, je dis bien mes mots. Enfin, j'espère qu'il y en a qui vont venir dans la jeune génération, dans la moyenne ou jeune génération, mais on voit trop de gens accrochés à... Moi, j'ai le souvenir, qu'est-ce que vous voulez, de Mendès France à gauche et du général de Gaulle à droite. Mendès France a très peu gouverné, mais il a laissé un souvenir très important. Et le général de Gaulle, deux fois, a quitté le pouvoir parce qu'on ne suivait plus ce qu'il croyait être bon pour la France. Des gens capables de renoncer à leur carrière pour faire passer des réformes auxquelles ils croient, nous en manquons actuellement. Nous en manquons. Et en France, d'une manière dramatique. Voilà. Enfin bon, moi, mon métier, c'est un métier de théâtre. Je suis homme de théâtre, théâtre de la nature, théâtre de l'histoire. J'essaye d'être bon là où je suis. Et vraiment, ça serait... dévoyer un peu le peu d'influence que je peux avoir pour gagner quoi. Voilà.
Alors, d'où tenez-vous cette formidable érudition que vous avez? Je crois savoir que vous êtes un lecteur, un fondu de lecture.
Oui, le livre aide beaucoup. Et j'ai appris par la méthode syllabique, pas par la méthode globale. Et j'ai un livre dans les trattoiries du XVIIIe siècle, comment apprendre à lire à un enfant de moins de 4 ans. Là aussi, il y a eu des âneries dans l'éducation nationale. J'ai fait un bac C. Je faisais, je crois, 11 heures de maths. Le bac S scientifique, aujourd'hui, n'en fait que 7.
À l'époque, c'était mathélème.
Oui.
D'accord.
Première C. Mathélème, j'ai fait un trimestre, après j'ai fini en philo, mais qui correspondait plus à ce que je souhaitais faire. Mais je dis que je regrette que l'éducation, surtout celle de l'histoire, a été terriblement raccourcie, dévoyée ces dernières années. Et c'est pas un vieux monsieur qui dit ça, c'est quelqu'un qui est en contact avec les jeunes et qui essaye de les ouvrir à l'histoire. Et je dis que l'histoire appartient à tout le monde. Et pendant longtemps, il y a un peu une idéologie en France, il faut dire, qui... Alors, il y a des choses idiotes. Que, par exemple, même un homme politique de la taille de Giscard d'Estaing ou de Jospin m'ont fait sauter au plafond deux fois, l'un et l'autre. Giscard d'Estaing, c'est quand il a dit, au moment où Bouteflika avait invalidé l'élection des députés islamistes du FIS. Bouteflika a dit ce sont des gens qui veulent supprimer toute forme de démocratie et la remplacer par la loi religieuse. Et il avait raison, Bouteflika. C'est pas que la démocratie ça soit fantastiquement exercée en Algérie, mais au moins il y a un cadre démocratique qui existe. Bon, j'espère que les prochaines générations l'utiliseront mieux que maintenant, mais voilà. Il avait raison, Bouteflika, de le faire. Et en 1700, si on apprenait dans les manuels de la République qu'en 1796, l'élection avait donné une majorité royaliste à la Chambre et que les députés républicains, dont mon ancêtre Jean-Baptiste Perrin, restés à Paris, ont invalidé tous les députés royalistes en disant « ils veulent remettre en cause la République, donc pour sauver la démocratie, on va les invalider ». Ils avaient raison dans le sens démocratique et républicain. Si on avait fait ça avec Hitler en 1933, ça aurait peut-être amélioré l'histoire de l'Europe. Ça, c'est la première ânerie. Mais dans les bouquins, la République doit être belle et pure, et cette faute démocratique n'avait pas été enseignée. Alors, au lieu d'enseigner en disant, mais non, ils avaient raison d'invalider les députés royalistes, Bouteflika avait raison d'invalider les députés du FIS, la démocratie a des limites, elle est fragile. Puis il y a des moments où il faut être un peu antidémocratique pour pouvoir sauver la démocratie. L'autre, c'est Jospin quand il a raconté que c'est la droite qui était responsable de l'esclavage, alors que c'est un député de droite qui a supprimé l'esclavage. Alors, c'est bête.
Un dénommé Schœlcher.
Oui, un dénommé Schœlcher. Ouais. Il était beaucoup plus un MRP qu'un socialiste ou un communiste, qui d'ailleurs n'existait pas à l'époque de Schœlcher encore. Bon, c'est vrai. Moi, je dis aussi, par contre, quelquefois, c'est grâce au Front Populaire qui a mis les congés payés et ensuite la voiture populaire qui fait que j'ai des visiteurs à Thoiry. Je trouve que c'est très bien. Non, mais je veux dire...
Ouais. Voilà, l'image est belle, oui. L'image est belle.
Donc, voilà. Alors, l'histoire, on a un manque de connaissances historiques qui est dramatique. Un manque de contact avec la nature qui est dramatique. Ce qui fait qu'on écoute parfois des écolos qui vous racontent des conneries, qui ne sont pas des vrais écolos. Parce que l'écolo politique est péremptoire. L'écolo de terrain, je peux vous le dire, on est humble. Quand un arbre se met à sécher, on se pose des tas de questions. C'est les insectes, c'est la sécheresse, c'est quoi? Un jardinier, un berger, on est humble. Quand les moutons commencent à être malins, on se pose des questions. La vache, ça ne va pas. Bon, on est humble. On n'est pas péremptoire. La nature nous dépasse par tous les bouts. Et c'est en étant à l'écoute de la nature et donc de ceux qui vivent des autres. Et tout le travail que j'ai fait en Afrique, où je me suis opposé à des écolos qui faisaient des sanctuaires officiels des grands organismes. Alors, ils disaient, là, on va faire un grand sanctuaire là, sur trois pays d'Afrique. Là. Bon, grande tache verte sur la carte. Incapable de garder les terrains, il n'y a pas d'argent. Donc, en fait, il y avait une tache verte, et puis il y avait le déboisement, on brûlait la forêt, les bracos et tout. Moi, en Afrique, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire on ne sauvera la faune sauvage dans les pays du tiers-monde que si celle-ci aide les hommes qui partagent le territoire à vivre. Donc, il faut manger les antilopes pour les sauver. Il faut élever de la viande de brousse. Bon, voilà, c'est l'approche pragmatique du fermier contre le théoricien.
Bien, vous êtes quand même un petit peu cachotier. Ou peut-être est-ce de la modestie, parce que tous les ans, il existe les remises des awards pour les stars, certes, mais il existe aussi les awards du tourisme. Cela s'appelle Tourisme Awards 2005. Si je vous en parle, vous imaginez bien que c'est parce que le labyrinthe des songes de Polyphile a remporté un award, celui de la meilleure utilisation technologique, parmi 64 candidats. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus ?
Oui, c'est vrai, j'ai oublié. On a créé un labyrinthe, mon épouse et moi-même, il y a 17 ou 18 ans. Et puis 5600 ifs, 2,3 km d'allées, qui est extrêmement moderne. Alors le labyrinthe est classique, puisqu'il est fait selon le nombre d'or, c'est la symbolique animale. Ça part de les animaux, le dessin du labyrinthe, il y a des animaux, les animaux de l'inconscient, les animaux du conscient. Donc il a une très très forte histoire à la base. Et puis, il est fait pour jouer. Alors le thème fondamental, c'est que si on ne descend pas dans le labyrinthe de la partie reptile, serpent de son cerveau, pour y affronter les dragons de ses peurs et de ses angoisses, on ne peut pas libérer la partie oiseau de son âme qui est sa vérité. Voilà l'histoire. Alors vous avez les animaux de l'inconscient qui sont la baleine et le dragon. Les animaux de la conscience, c'est la chouette d'Athéna qui voit la nuit et la colombe de l'Arche de Noé ou du Saint-Esprit. Et le labyrinthe, c'est un jeu à deux niveaux. C'est un jeu de cache-cache. 2,3 km d'allées, 9 ponts qui franchissent chaque fois 3 allées. Et de chaque pont, on voit le tiers du labyrinthe. C'est-à-dire que contrairement à un labyrinthe plus classique, on se voit. On se voit régulièrement. Il y a 9 points où on peut voir. Donc on joue à cache-cache, on s'interpelle, c'est très vivant. Donc on peut très bien utiliser le labyrinthe simplement comme ça. Puis on peut l'utiliser d'une manière plus subtile. Il y a à l'entrée 2 bornes informatiques et à l'intérieur 10 bornes informatiques avec écran. Et à l'entrée, on arrive, on tape son nom ou son pseudo et puis on vous propose la langue dans laquelle vous voulez que ça soit fait. Puis il y a 5 thèmes qui sont les animaux, l'environnement, l'histoire, la mythologie et les secrets du labyrinthe, c'est-à-dire la symbolique animale et végétale. Et il y a 3 niveaux, novice, initié et maître. Et le tout est multiplié par 3, parce que si on prend 3 tickets du même, c'est pas les mêmes questions.
D'accord.
1800 questions et réponses, et je peux le multiplier par 30, c'est beaucoup de travail, et autant de vidéos et de photos pour aider à trouver. Puis, alors, on tape son nom, on choisit, et on a un code barre, comme dans les magasins. Et quand on arrive à la borne, on passe son code barre devant une sorte de scanner, et sur l'écran s'affiche Paul, vous avez choisi la question, telle série, telle chose. Alors voilà les 3 questions. Il y a des images qui passent et qui doivent vous aider à trouver la réponse A, B ou C. Alors c'est un écran tactile, on appuie. Si on a appuyé au bon endroit, c'est bien. Et si on est perdu, on en a marre, on n'arrive plus à trouver, on est perdu, alors on dit genre non, ça joue. Et à ce moment-là, apparaît des plans pour sortir du labyrinthe plus vite. Voilà.
D'accord.
Donc c'est un jeu comme un jeu trivial poursuite, c'est un jeu interactif. Le labyrinthe est interactif, jeu de cache-cache tout bête, je dirais, et trivial poursuite qu'on peut jouer en famille. Et puis il y a un tableau à la sortie qui affiche les meilleurs résultats. Et c'est différent des autres jeux comme l'île aux tortues, où les gosses jouent dans des toboggans, passent dans des souterrains, dans des ponts de singes, où là les parents se reposent. Et c'est actif que pour les enfants.
D'accord. Voilà. D'accord. Bien, cette émission touche à sa fin. Ça va vite. Hein. On resterait des heures avec vous. Mais malheureusement, nous sommes pris par des contingences horaires. Alors, on va détendre un petit peu l'atmosphère hein, après avoir parlé. Je dis que 1 heure de plus, ça serait pas de trop. Alors, on va s'amuser un petit peu. Je vais vous poser des questions et puis vous allez me répondre. Alors, félin ou oiseau?
toute forme de vie remarquable. Donc, à Thoiry, on voit les félins dans le tunnel de verre, ils vous marchent sur la tête. Les oiseaux, on les voit qui volent autour de vous. Mais je rêve d'être oiseau, d'autant plus que, vu l'embonpoint que j'ai, ce sera un rêve que je réaliserai jamais.
Afrique ou reste du monde ?
On laisse son cœur en Afrique. Quand on a travaillé en Afrique, on laisse son cœur en Afrique. Mais pour moi, la mondialisation est une très bonne chose. Et moi, je suis le monde.
Tradition ou aventure ?
Oh ben les deux.
Au pluriel, hein ?
Oui, et aventure, les deux, parce que la tradition est déjà une aventure. C'est-à-dire, à partir du moment où on plonge ses racines, ça vous ouvre l'esprit pour aller plus loin dans le présent et vers l'avenir. Et j'ai une chose, quand on a une maison, c'est plus facile d'avoir, quand on a une maison et qu'on a des racines, d'aller partout dans le monde. Et c'est pour ça qu'il faut redonner aux gens des racines, pour les aider à avoir ce pouvoir d'aller partout, d'être eux-mêmes partout.
Réception ou bouffe entre copains ?
Là, je le dis tout de suite, bouffe entre copains, à condition que la cuisine soit correcte, je suis très gourmand.
Costard ou jeans ?
Ah, jeans, c'est plus confortable.
Safari ou chasse privée en Sologne ?
Ni l'un ni l'autre. J'ai arrêté de chasser à l'âge de 22 ans. Je suis pour la chasse quand c'est une chasse qui est très bien organisée. J'ai vu des chasses remarquables dans ma famille. J'ai encore des cousins belges et allemands qui ont des chasses très intéressantes. Je ne suis pas chasseur. J'étais tireur, mais je n'étais pas chasseur. Donc j'ai arrêté. Mais vous savez, la chasse, les animaux chassent. Comme dit Darwin, l'évolution est rouge de griffes et de crocs. Si nous sommes là, c'est bien parce que il y a eu les prédateurs ont sélectionné les proies et les prédateurs se sont entretués pour les territoires de chasse. La vie est cruelle aussi. Et le tout, c'est de savoir nous l'humaniser.
Bien, alors il est de coutume dans cette émission, vous savez, il y a toujours des bonnes âmes pour dire l'intervieweur a posé une question à la con. Mais moi, je vais la revendiquer.
cette question à la con. C'est celui qui répond à la con.
Alors, là voilà, ma question à la con. Brigitte Bardot défend la cause animale, vous aussi, quelque part. Quelles sont vos relations ?
Elles sont excellentes, puisqu'on a souvent travaillé ensemble. Puis alors, si vous faites sur Internet Bardot Barjavel, ouais, vous découvrez des très belles images de Brigitte Bardot dans le parc de Thoiry, il y a quelques années, et avec un écrit de Barjavel, qui est un écrivain que j'aime beaucoup. Je dirais qu'on n'est peut-être pas toujours tous d'accord avec des associations de protection de nature. Ce qui est important, c'est que... c'est qu'on arrive à des résultats positifs. Je veux dire que plus il y a des différences, plus dans l'action on peut se retrouver. Là, j'ai travaillé avec Invoice pour sauver une éléphante. Et donc là, on s'est découvert un peu parce que eux étaient plutôt un peu anti-zoo. Moi, j'étais un peu méfiant du coup un peu avec eux. Et puis, on a travaillé ensemble pour sauver cette éléphante et on s'est aperçu qu'en fait, on était beaucoup plus proche qu'on ne pensait. Et que souvent, c'est parce qu'on ne dialogue pas, qu'on ne se connaît pas. Et moi, je les ai rassurés en disant, vous savez, moi, je suis pas la nature. Parce qu'ils craignent quelque part que je dise que, ben, après tout, les animaux, à Thoiry, ça remplace la nature. J'ai jamais dit, j'ai dit que c'est un théâtre de la nature. Mmh. Et que le milieu naturel, c'est là où les animaux s'expriment et qui est très bien. Par contre, nous sommes un centre d'élevage. On peut sauver quelques espèces, malheureusement pas toutes. Alors, et qu'on est un théâtre. Puis à partir du moment où les actions sont bien situés, les objectifs sont clairs, on s'aperçoit qu'on est souvent beaucoup plus proches les uns des autres qu'on ne le pensait.
Bien, cette émission se termine. Merci Paul de la Panouse.
De faire connaître mon théâtre de la nature et de l'histoire.
Vous nous avez éclairé sur plein de choses et je donne rendez-vous à mes auditeurs. Vendredi prochain, nous serons en compagnie de Christian Blanc. Christian Blanc, c'est l'ancien PDG d'Air France et actuel député des Yvelines. Voilà.
Et le lion est mort ce soir.
Merci Monsieur de la Panouse.
Rencontre avec
Jean-Michel Beauregard.
Rencontre avec.
Rencontre avec.
Vous avez vendu plus de 20 millions de bouquins concernant l'Égypte. Concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous permettez de demander la démission du président de la République ? J'ai l'impression que vous vous foutez d'eux.
J'ai dénoncé le dopage, mais c'est pas très original.
Quel scoop !
Rencontre avec.
Tous les dimanches à 18h.
À 18h.
Et la rediff le mardi à 23h.
À 23h.
Pendant une heure, Jean-Michel Beauregard
recevra une personnalité du milieu politique, économique, culturel, sportif.
Je vous attends sur RVE. Soyez au rendez-vous.